Le moral, il l'a toujours, il réfléchit au temps qui passe, se téléporte au Pays Basque et il se souvient que là-bas, le vent de mai soufflait déjà depuis combien de temps, il ne sait pas. Mais quand les étudiants s'enflamment pour la cause ouvrière, sa mère, elle est déjà dans sa simka. Pied au plancher, elle veut, elle va prendre un amant, une cigarette, elle sait le goût de la liberté à ça, elle veut rien sacrifier. Il la regarde, petit garçon, de l'amour, de l'admiration. Est-ce qu'il a peur pour elle, peut-être? Il voit autour les loups qui guettent, qui montent les crocs et hurlent la mort pour celles qui veulent lever la tête. Catherine s'en moque, le père laisse faire. Ce couple est révolutionnaire, ils le savent pas, non, c'est comme ça. Et puis c'est l'époque qui veut ça, les femmes sans tête depuis qu'elles votent. Le pire, c'est que tête de linotte, elles finissent par obtenir des droits dont elles savent pas se servir. 66 mois de février, elles vont pouvoir disposer de leur argent sans demander l'autorisation du mari. Mon Dieu, c'est ça la liberté, mais la famille va exploser. Et les hommes, ils vont perdre pied, si tout fout le camp, faut pas pleurer. La faute à ce foutu progrès qui a fait péter les corsets. Le petit garçon devant la télé suit tous les débats ébahis. Il comprend pas tout, il a 8 ans, mais il le voit mieux, il le sent, ce qu'il se passe autour de lui, élargit le sourire de sa mère, et il aime bien quand elle sourit.
Dans toute cette histoire, que deviennent les droits du mari?
Eh bien, le mari reste le chef de la famille, c'est un très beau titre, mais en fait, il n'a plus aucun droit, il n'a plus aucun pouvoir.
Je crois que vous exagérez, il en a tout de même autant que la femme.
Oui, certainement, il a exactement les mêmes droits que la femme maintenant, mais ils pourront faire chacun de leur côté exactement la même chose, les mêmes actes, procéder aux mêmes acquisitions, faire exactement, se faire ouvrir un compte en banque, vendre des titres, et pourront agir tout à fait indépendamment l'un de l'autre.
J'ai l'impression que les maris ne sont pas très contents à vous entendre.
Les maris sont peut-être un peu déçus d'avoir perdu cette vieille qualification de chef de la famille et de chef de la communauté surtout, car au fond la femme avant était en tutelle, il faut bien le dire.
Bon, revenons-en aux choses sérieuses.
Bon oui, parce que c'est pas sérieux quand même, c'est l'histoire de bonne femme. Hein.
France Inter. Julia Foyce. Unique en son genre.
Et bonsoir Jean-Michel Apathy.
Bonsoir Julien.
Je me réjouis de vous recevoir.
Je suis très heureux d'être là.
Je vous avoue que je savoure un petit peu l'effet que doit produire certainement chez celles et ceux qui nous écoutent l'énoncé de votre nom. Mais qu'est-ce que vous faites là? Auriez-vous, je ne sais pas, produit le récit d'une non-binarité, d'une transidentité, d'une transgression quelconque à la norme qui fasse que tout à coup vous veniez vous raconter ici, comme le font tous ceux qui viennent le vendredi? Eh bien oui et non. Vous êtes homme. 6, blanc, portant bien le costume, parlant bien au micro, possédant a priori tous les attributs d'un pouvoir qui vous porterait plutôt à incarner ce régime patriarcal. Disons que vous en auriez toutes les raisons et tout intérêt à le faire. Sauf que, dans ce concert de voix que l'on entend depuis le début de MeToo, concert qui globalement consiste à tenter de faire taire celle qui ose l'ouvrir, vous faites entendre une musique dissonante, une note singulière qui évidemment nous a fait tilt au creux de l'oreille. Comme ici, à l'antenne de Sud Radio face à Valérie Expert, c'était le 29 septembre dernier.
Nous devons prendre conscience de ce que sont les violences. Vous dites que la prise de conscience est faite lundi dernier. Le Parisien signale à ses lecteurs, cette année, que Patrick Poivre d'Arvor a 74 ans et qu'on peut se rappeler de son anniversaire. Comme il ne s'était rien passé entre ses 74 ans, donc lundi dernier, et les 73 ans l'année dernière. C'est très curieux. Ça montre que la culture n'est pas acquise, que l'attention n'est pas suffisante au drame que vivent certaines femmes et qui, à l'extrême, peut aller jusqu'à leur mort parce que un homme pense qu'une femme, c'est sa propriété.
Oui, sauf que est-ce qu'il y a un traitement différent? Je reviens toujours à la même question sur certaines personnes. Nicolas Hulot est la personnalité préférée des Français. Patrick Poivre d'Arvor est une sorte d'icône.
Vous voulez mon sentiment?
Oui.
Il y a plus une fainéantise et un manque de prise de conscience de la part des journalistes qu'un traitement particulier pour Nicolas Hulot.
Jean-Michel Apathy, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Qu'est-ce qui, tout à coup, vous fait vous positionner du côté qui n'est pas naturellement le vôtre, celui des femmes et celui des victimes?
Le tout à coup n'est pas juste. Dans ma vie, vous faisiez référence dans l'introduction à un livre que j'ai écrit sur la liberté de ma mère. J'ai toujours été sensible au sort qui était réservé aux femmes, aux inégalités. Enfant, j'ai été marqué par cette jeune fille qui passait devant la maison et à qui la terre entière, en tout cas la terre qui était mon environnement, en voulait parce qu'elle était l'amante d'un homme marié. Et elle était la sale femme qu'il fallait stigmatiser. J'ai spontanément vécu ça comme une injustice. Elle était jolie, elle aimait un homme marié, mais enfin l'homme marié avait sa part de responsabilité, et on ne pouvait pas faire peser sur elle et elle seule le poids d'une situation. C'était pourtant ce qui se passait. J'ai toujours été sensible à ce type d'injustice faite aux femmes. Le désir féminin, la volonté féminine ne va pas de soi dans des sociétés comme les nôtres. Encore aujourd'hui. Et si aujourd'hui j'ai pris la parole, c'est parce que des circonstances politiques m'ont permis de la prendre sur ce sujet. Mais j'ai toujours eu ouais. cette envie, cette pensée et ce regard sur la société.
Et vous le racontez formidablement bien dans ce si joli livre, La liberté de ma mère. On va en parler de ce livre, on va raconter votre enfance, votre mère Catherine, votre père Jean-Pierre, et puis le fil va se dérouler, et puis on va comprendre tout ça, tout ce qui fait que vous êtes l'un des très rares, quand même, à prendre fait et cause pour les femmes et contre les violences faites aux femmes.
Quel bonheur de pouvoir parler pour moi, c'est intime, hein, de Catherine et de Jean-Pierre. Ils sont morts, mais quel bonheur de pouvoir en parler.
On va regarder dans le rétro, comme vous le faites dans ce livre, regarder une époque qui s'éveille, une société qui se fissure, qui se craquelle, et puis la liberté des femmes émerger. Mais d'abord, je vous demandais à vous de vous regarder dans ce miroir.
Alors, je me regarde.
Regardez-vous. Oui. Qui voyez-vous? Que voyez-vous?
Ah, je vois un visage que je connais bien. Évidemment, ce type d'interrogation est un peu déstabilisant parce qu'on est obligé de dire des choses intimes si on veut que le moment que nous passions ensemble ait un intérêt. J'ai toujours aimé mon visage et je ne me suis jamais trouvé beau. Je ne me suis jamais trouvé séduisant et j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'attirant chez moi. Voilà.
C'est étrange,
je ne sais pas comment départager tout ça. Mais ce qu'il a toujours emporté chez moi, c'est l'insécurité.
C'est vrai ?
Oui, et le sentiment d'avoir du mal dans beaucoup de choses.
Alors ça, on en parlera aussi de votre parcours, de ce parcours si atypique qui vous a conduit aujourd'hui être qui vous êtes. Une petite question, une dernière d'introduction pour planter le décor ensemble. Qu'est-ce qui pourrait faire mauvais genre chez vous ?
Je suis né au Pays Basque, ça s'entend. Et ce qui peut faire mauvais genre chez moi, c'est l'accent, le côté paysan. Dans le milieu où je suis, il y a quand même une espèce de contradiction formidable entre les gens qui disent la France, la France, la France, mais qui n'en acceptent qu'une version bien policée. Et donc, voilà, c'est un peu la stupidité de la nature humaine qui ressort. Et ce qui peut faire un mauvais genre chez moi, c'est ça. C'est ce que je suis.
Alors, cet accent, il dit aussi votre singularité. Il dit le basque, il dit le pas comme eux, le j'ai pas la carte. Vous nous raconterez ce soir comment le gamin de Viodos a tant rêvé devant la télé, s'est retrouvé à la télé, comment il a voulu l'ailleurs et comment il y est arrivé, comment il aimait tant sa mère qu'il voulait la voir respirer. Et puis sourire, et puis danser.
Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle sable sur les frontières, parle-moi à celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer, parle-moi à celle qui vit là, celle qui a dit on ne la mariera pas. Si tu vas où le soleil est si chaud, que la terre sourit et que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'eau, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si ses tresses sont longues, si le long de sa robe sous la terre, celle qui dort.
Émilie Loiseau sur France Inter, celle qui vit vers le sud, ce sera le sud-ouest pour nous ce soir. Le Pays Basque, l'intérieur des terres, terre vallonnée, route escarpée, une cime Camille, pas puissante, non, et bruyante, mais rouge, et belle, et gaie, comme cette femme, Catherine, qui la conduit. Parce qu'un jour, celle qui n'avait plus lu un livre depuis 25 ans a attrapé le code de la route et qu'elle s'y est plongée et qu'elle a eu son permis dans les années 60, seule face au patriarcat moribond, écrivez-vous, Jean-Michel Apathy, unique en votre genre et votre mère aussi, vous êtes notre invité.
Unique en son genre.
Nous sommes très exactement le 8 septembre 1958 à Montcaillol et vous arrivez à 21h au domicile de Jean-Pierre et de Catherine, déjà parents d'un petit Philippe, 3 ans. La nuit est tombée, au loin on voit dans cette vallée de la Soule les lumières de Mauléon encore briller. Mauléon, la ville, son usine d'espadrille, son cinéma, son équipe de rugby, mais ça, on y reviendra.
Απίσωριαν σιγπέρο, σακούραν διά ετορικόδα, σουκες βανέτ εσουαγί.
Jean-Michel Apathy, vous êtes où quand vous entendez ce chant basque, cette berceuse? Si vous vous transportez, emmenez-nous avec vous dans ce pays basque de votre enfance.
Je suis dans un monde, un milieu et un moment, les années 60 de mon enfance, années 70, début de mon adolescence, dans un monde que je n'aime pas.
C'est vrai?
C'est une culpabilité pour moi d'entendre ça. La culture basque, c'est quelque chose de tel que je l'ai connu moi et tel que je la regarde aujourd'hui. C'est très beau, et cette voix le dit bien, parce que c'est très doux. Le Pays basque français est une terre de 200 000 personnes. Il n'y a pas eu de guerre pendant 10 siècles. Il n'y a pas eu d'invasion. Il n'y a pas eu de violence des hommes vis-à-vis des autres hommes. Et ça a créé une culture, contrairement à l'image que l'on peut avoir, extraordinairement douce et conviviale. Où sans doute, tout est une question d'échelle, la place des femmes n'était pas, à cet endroit de la France-là, la plus contestée. Ah oui ? C'était quelque chose de très singulier. Et moi, je n'aimais pas la culture basque quand
Pourquoi
j'étais jeune. Parce que j'étais français. Parce que je regardais la télévision. J'étais attiré par la France. Le Pays basque, c'est un pays, c'est une nation. Après tout, on est français parce qu'on a bien envie de l'être. Mais on pourrait être seulement basque. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et ça ne sera jamais mon histoire. Mais c'est une culture formidable que j'ai rejetée. Et je peux la redécouvrir, ou je l'ai redécouverte plus tard, en comprenant la beauté et la singularité. J'ai été président du comité des fêtes de mon village, début des années 70. Il y avait une tradition, tous les samedis soirs, c'était un spectacle de folklore basque. Eh bien moi, je n'étais qu'une fois, après ils m'ont viré. Hein, donc, moi, président du comité des fêtes, j'ai fait venir des majorettes de Morsin, qui est un village des Landes pas très éloigné, pour un spectacle de lumière noire. Moi, je trouvais ça très beau, les filles étaient très jolies, mais on m'a dit, mais enfin, écoute, t'es un connard. C'est la culture basque qu'il faut mettre en avant dans les fêtes de village. Et ça, c'est
mais
un
parce
peu
que, du coup, y a
mon
une
drame
forme,
personnel.
Il y a une forme d'immobilisme là-bas? C'est un
bien
endroit
sûr
dont on ne
c'est
sort
ça,
pas?
Le problème, c'est que la culture ne se renouvelle pas et les gens ne sortent pas.
Alors, Jean-Pierre et Catherine sont tous les deux issus de cette culture-là. Jean-Pierre roule à moto, Catherine en solex. Il est timide et même taiseux. Elle est douce, elle est jolie. Il la croise souvent sur la route qui mène à Mauléon. Alors un jour, il l'aborde. Et puis ce jour, ils se parlent. Et puis un autre jour, ils se marient. Ils sont heureux, oui, apparemment. Surtout depuis qu'ils ont leur maison. C'est une maison à eux, qui est bien à eux. Qu'est-ce qu'elle raconte d'eux et de l'époque, Jean-Michel Apathy?
Alors, elle raconte beaucoup de choses. Avant eux, avant Catherine et Jean-Pierre, aucun de leurs parents, dans les étapes successives, n'ont eu quelque chose à eux. C'était des petits métayers, c'est-à-dire ils n'étaient pas propriétaires de la terre, ils la cultivaient pour d'autres. Et tout à coup, les années 50, qui permettent de se salarier dans l'usine de sandales et de chaussures de Mauléon, leur permet d'avoir un crédit auprès de la banque, mais ça change tout. Un crédit auprès de la banque, ils s'achètent un petit bout de terrain, et ils font construire une maison dessus qu'ils vont payer pendant 20 ans. Avant eux, dans toutes les générations qui les ont précédés sur la terre, personne n'avait eu un toit sur la tête. À eux. Ils sont propriétaires et ils installent, ce que permet la technologie de l'époque, une salle de bain,
oui,
l'eau courante. Mais ce sont des révolutions mentales.
Vous avez de
extraordinaires.
Très jolies pages sur l'eau courante. Vous dites que finalement, le fait de pouvoir sentir bon, de pouvoir se laver,
ça change tout.
Ça fait relever la tête. Quoi.
Mais bien sûr. Vous parlez pas pareil au curé, au maire, au patron. Quand vous sentez bon, quand vous sentez plus la crasse, la merde, eh bien vous parlez, oui, vous relevez la tête, bien sûr. Bien sûr que ça fabrique des révolutionnaires, l'eau courante. Mais tout ça, on n'y réfléchit pas assez. Et puis, mon père se lavait une fois tous les 15 jours. Ma mère, tous les jours.
Ouais.
Et les femmes gagnent en dignité aussi, comme ça. Et tout ça, ça change les mentalités. Ça les bouscule. Et tout un ordre qui est là, millénaire pratiquement, ben, il commence à être balayé. C'est ça, la révolution.
Alors il y a cette première poussée révolutionnaire qui est l'existence de l'eau potable, la salle de bain, la douche, le lavabo, le bidet, et puis...
Mais ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ça, si ?
Si, parce que vous l'expliquez très bien.
D'accord.
Dans le salon arrive une autre chose extraordinaire, elle est massive, elle est lourde, mais elle est merveilleuse. Vos parents seront parmi les premiers de Vieux-Dos à avoir la télévision, elle vous aimante, elle vous happe, et surtout le samedi quand il y a rugby.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bonjour amis sportifs. Ici, le stade Yves du Manoir à Colombes, où vous allez assister dans quelques minutes au match France-Irlande, comptant pour le tournoi des Cinq Nations.
Oh là là, j'ai l'impression que M. Delnau fait un peu de trapèze là. Ouverture sur Gachassin, Gachassin, Donna Dourte qui fait le trou, passe la ligne des 50 mètres, continue, Donna Duprat, attention Duprat, la ligne, ouais, oui.
Roger Coudert.
Exactement. À l'époque, que vous procure comme sensation ces matchs de rugby, ces rendez-vous
hebdomadaires devant la télé ? Conseiller devant la télévision parce qu'un voisin à nous qui était un retraité de la SNCF et qui buvait à peu près 2 litres de vin rouge pendant le match, venait, on était les seuls à avoir la télévision dans le quartier, dans le hameau. Donc il venait, mais ma mère, alors, le rugby, elle s'en moquait complètement, et mon père, il avait autre chose à faire aussi. Et donc, moi, j'étais consigné, j'étais jeune, donc j'avais 7, 8, 9 ans, et je regardais avec ce type qui fumait des gitanes maïs le match de rugby. Et tous les deux, on vibrait pour la France. Et on était là, vraiment accroché au poste. Mais quand on prend un peu de recul, quelle est la réalité de la scène ? C'est que lui, à la fin de sa vie, et moi, au début de la mienne, nous pouvions voir quelque chose que aucun avant nous, sur cette terre, n'avait vu. Un match de l'équipe de France. Et du coup, ça nous associait au destin national. Et on connaissait tous les joueurs. Et quand ils donnaient un coup de poing à l'adversaire, au méchant anglais, on était content. Et quand ils en recevaient un, on était triste. C'était une vague d'émotions permanentes.
Et c'est-à-dire que ça ouvre sur l'autre, ça donne envie d'ailleurs, ça...
Alors, pas forcément ces matchs de rugby, même si c'était des... Mais la télévision donne des envies d'ailleurs, bien sûr. Bien sûr. La télévision, parce que la télévision, donc il y avait les matchs du tournoi des Cinq Nations, mais il y avait plein d'autres choses. Il y avait des chanteurs, il y avait Claude François, avec des Claudettes renversantes. Je pense que là, mon père regardait la télévision.
Et puis, il y a mai 68 que vous vivez en direct à la télévision.
Ah oui, absolument.
Quel effet est-ce que cela produit, voilà, sur un petit garçon ?
Moi, ça m'a beaucoup angoissé. C'est-à-dire que mon père, en plus, il revenait avec des mines de conspirateur. Son patron lui disait que la télévision ne nous montrait pas tout, que c'était bien pire. Alors, pire que quoi ? On voyait à Paris des jeunes gens qui envoyaient des pavés sur des policiers. Moi, déjà, ça me semblait... Enfin, comment ils peuvent faire ça, quoi ? Enfin, des policiers... Quoi, le monsieur le policier, on lance des cailloux, ça va pas dans la tête. Et j'avais l'impression que c'était toute une société qui basculait, qu'un ordre établi était en train d'être contesté par des petits jeunes dont je ne savais rien. Mmh. Et moi, enfant, j'avais 10 ans en mai 68, je voyais ça comme la destruction du monde. Et je me demandais si ce qui se passait à Paris pouvait se passer ici. Et si mes parents pouvaient être en danger, si moi-même, je pouvais être en danger. Moi, je les bien notre maison de campagne. J'aimais bien tout ce qu'on avait. Je voulais pas que qu'on lance des cailloux dessus.
Votre mère, elle en pensait quoi de tout ça ?
De tout ça. Alors ma mère a toujours été très, elle était très dépolitisée. Bon, voilà, je pense qu'elle a voté De Gaulle et puis après elle a voté Giscard et puis après elle a voté Mitterrand. Enfin, elle votait pour celui qui allait gagner. Bon, voilà, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ma mère, elle vivait les choses, comment dirais-je, de manière concrète. Pour elle, la vie n'avait aucune dimension politique. Ce qu'elle voulait expérimenter, c'était ce que le moment lui permettait d'expérimenter.
Alors, vous dites qu'elle était prête à saisir tous les outils de son émancipation.
Absolument.
Ouais.
La cigarette, oui, bien sûr, je vais fumer. Je vais voir ce que ça fait de fumer. J'ai envie de fumer. Je veux pas que... Mon père ne fumait pas, d'ailleurs. Mais je veux pas que ce soit que les hommes qui fument. Si, voilà, le permis de conduire, sortir...
Alors, ça, c'est l'histoire du permis de conduire, j'aimerais bien...
Et sans doute,
bien
elle a été frustrée de pas sortir, de pas danser, de pas... Je crois que ma mère aimait tout ça, et que la vie de l'époque ne lui permettait pas, une fois qu'elle était mariée et qu'elle avait des enfants, de continuer à vivre.
Elle est assez saisissante, hein, votre mère, parce que vous l'écrivez, elle a à la fois peur de tout.
Oui.
Et en même temps peur de rien. C'est la dernière d'une fratrie de 4 enfants, les filles de métayer. Elle arrête l'école à 10 ans, parce qu'il y a une heure de marche à pied pour aller à l'école, donc au bout d'un moment c'est trop.
On fait pas, oui.
Et puis son horizon va s'élargir parce que Moléon se dote d'une usine à sandales. Qu'est-ce que ça change pour elle, ça?
Alors ça change pour elle que le sort des femmes c'était soit de rester à la maison, soit de... je sais pas, de faire des ménages, en fait d'avoir des vies extrêmement caricaturales. Une vie de femme. C'est-à-dire sans occupation très intéressante. Et quand elle a 18 ou 20 ans, elle peut être salariée, c'est-à-dire gagner de l'argent, elle. Avoir des relations sociales avec d'autres filles de son âge et d'autres garçons de son âge qui ne sont pas liés au voisinage, qui ne sont pas liés aux relations que leurs parents peuvent avoir avec d'autres familles. Mais elle est autonome. Elle rencontre, dans l'usine à Moléon, des filles qui viennent, alors bon, ça ne dira pas grand-chose aux auditeurs, de Musculdi, qui est un autre village. Mais très éloigné de Moncayol, puisque ma mère habitait à Moncayol. Vous savez, il y a 30 kilomètres de distance, mais ce sont des murs qui séparent les gens dans ces époques où les corps se déplace difficilement. Ouais. Donc elle rencontre des filles et des garçons des autres villages et ça élargit son horizon.
Alors justement,
ça bouscule la vie.
Ça, elle s'en souvient parce qu'elle s'arrête de travailler quand elle a ses deux petits.
Oui.
Et puis les petits grandissent.
Bien sûr.
Donc elle peut se remettre à travailler et c'est ce qu'elle fait. Donc elle va devenir femme de ménage, sauf que la place qu'elle trouve, à se demander si elle ne l'a pas fait un peu exprès, c'est une maison bourgeoise qui est très loin. Donc elle se dit, ok, je vais passer mon permis de conduire.
Exactement, je passe mon permis de conduire. Comme ça, elle allait avant au travail en Solex. Comme ça, j'ai pas froid, je suis protégé de la pluie, tout ça. Et puis, passer le permis de conduire, j'ai plus besoin de personne pour me déplacer.
Mais ça, c'est fou, parce que vous dites déjà...
Pour que le corps puisse se déplacer. C'est très nouveau, ça.
Que les femmes puissent déplacer aussi leur corps.
Les femmes, c'est vrai aussi pour les hommes. Parce que quand la voiture se démocratise, les corps deviennent libres de se déplacer. Ouais. Mais c'est particulièrement vrai pour les femmes, qui avaient toujours besoin d'un homme pour se déplacer. Là, ma mère, les femmes, peuvent se déplacer seules. Elles vont où elles veulent seules. Alors, est-ce que les maris les surveillent ou pas? Il se trouve que mon père était un homme libéral.
Oui, votre père, il laisse faire.
Je pense qu'il a aimé cette période où les gens se libéraient, où les gens essayaient de prendre en main leur destin, de construire leur vie autrement que selon les décisions de leurs parents ou des modèles sociaux qui existaient.
Alors, ça plaisait à votre mère, ça plaisait à votre père, ça plaisait pas à tout le monde. Vous écrivez qu'elle travaille, c'était déjà une concession, mais qu'elle passe son permis, c'était carrément une provocation.
Ah oui, bien sûr.
Pour les hommes autour, pour la société qui entoure, parce que vous décrivez aussi un Pays basque qui est régi par les hommes, par un patriarcat qui est soutenu par l'Église. Qu'est-ce que ça vient bousculer une femme qui conduit?
Une femme qui conduit, c'est une femme qui dit qu'elle n'a besoin de personne. Un homme, puisque nous avions un voisin agriculteur qui, chaque fois qu'elle prenait le volant, venait à la haie pour dire « Mais enfin, mais Jean-Pierre, comment tu la laisses conduire toute seule ?» C'était cet homme-là, le paysan, il voyait que la femme partait et personne ne savait où. Jean-Pierre ne savait pas où, puis lui non plus, parce que de toute façon, lui, ma mère n'avait pas lui dire où elle allait, disons. Et donc, du coup, elle allait où? Mais vers la perdition, vers le vice, vers... Mais qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? Mais où elle va?
Et puis, c'est des
scènes. Où est-ce qu'elle a besoin d'aller? Et donc, c'était une contestation de schémas mentaux extrêmement fort. Une femme ne peut quitter la maison que si moi, l'homme, je sais où elle va.
Ce sont des scènes d'humiliation quotidienne. Ce voisin, dès que votre mère prend la voiture, la regarde, ricane avec ses chicots pourris là, et sa cigarette ses chicots, se moque d'elle, donc elle, de nervosité, elle cale, elle s'énerve, elle, évidemment. Vous voyez tout ça.
Je pense que c'est cette humiliation que j'ai trouvée injustifiée, parce que j'aimais ma mère, et puis ma mère ne faisait rien de mal. J'étais souvent, enfin, dans ses souvenirs, en tout cas, j'étais à côté d'elle dans la voiture. Moi, j'étais sur le siège passager. Comment je pouvais être du côté de ce type qui se moquait d'elle? Impossible. Donc, j'étais avec ma mère. C'est ça qui m'a construit. J'ai été très tôt, non pas avec les femmes, mais j'ai été très tôt avec la liberté des individus. Les individus sont libres. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Ils sont libres de dire oui à une sollicitation et ils sont libres de dire non à une sollicitation. C'est la règle de vie. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Et nous devrions tous la partager. Le constat qu'il faut faire en 2022, c'est que nous ne la partageons pas tous.
Et c'est ce que vous dites d'ailleurs, c'est que déjà, avant mai 68,
ah, bien sûr,
était dans vos veines avec cette envie de liberté et de construire un destin qui vous était personnel, en fait.
Quand mai 68 se produit en France, il y a longtemps que mai 68 est terminé. Mais ça, Daniel Cohn-Bendit n'a jamais su.
Alors, entre-temps, il y a un drôle de bâtiment qui a poussé à Mauléon. C'est un cube blanc avec des lettres en néon rouge. La ville s'est dotée d'un cinéma. Vous y allez deux fois par an avec vos parents. Deux, pas plus. On s'accorde des loisirs, mais pas trop quand même. Vous verrez en famille tous les films avec De Funès. Vous continuerez alors à rêver d'ailleurs. Un ailleurs que vous trouverez aussi dans les livres. À la maison, il n'y en a pas. Mais votre mère vous emmène tous les samedis à la bibliothèque municipale, c'est dire, si elle vous aime. Hein. Vous passez le brevet, vous l'avez, jamais un membre de la famille n'a été aussi loin dans ses études. Résultat, vous êtes l'intello de la famille, ouais. Sauf que vous décrochez et le lycée, pas question. Mais pourquoi ?
Je sais pas, en fait, j'étais un garçon sensible, intelligent, où j'apprenais très vite, et puis au collège, je sais pas exactement, c'est un peu une énigme, j'ai arrêté de travailler, j'ai eu des mauvais résultats, peut-être aussi que le climat familial, ma mère, mon père, ça allait pas très fort, bon voilà, peut-être que il y avait des brouilles qui m'ont un peu affecté, un peu trop, et du coup j'ai arrêté de travailler, j'ai passé le brevet des collèges au repêchage, j'ai eu du mal, et puis après, c'était l'époque, début des années 70, ben, j'ai commencé à travailler.
Ouais. Alors, votre
j'ai
père...
été salarié très tôt.
Ce qu'il y a, c'est que votre père devient gérant de l'épicerie où il travaillait, donc toute la famille quitte le hameau, vous vous installez en ville.
C'est ça.
Vous avez 15 ans.
Le village faisait 500 habitants, donc...
Bah, par rapport au hameau de 30, c'était déjà pas mal.
C'est déjà la ville.
Vous avez 15 ans, et comme la plupart de vos camarades, vous êtes déjà dans la vie active, et c'est vous aimez ça.
Oui. Oui, j'ai aimé, parce que du coup, d'un coup, on devient grand, d'un coup, on devient adulte, d'un coup, j'avais de l'argent pour sortir, et j'ai pensé que ce serait ma vie.
Ouais.
Et j'ai commencé, j'ai beaucoup bu, beaucoup, je me suis beaucoup battu, je sais pas, j'étais avec des gens qui se battaient beaucoup, c'était d'une virilité incroyable. Et les filles, on les abordait quand on avait bien bu, enfin, c'était un peu minable tout ça. Et j'ai pensé que ce serait ma vie tout le temps, parce que je n'aurais pas pensé avoir en moi les ressources et le courage pour aller faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire aller vers la grande ville.
Oui, sauf que, il y a un autre événement, c'est votre service militaire. Une année à Hourtin coupe le fil qui vous relie à vos terres natales. L'été 77, vous voilà alors à Biarritz, et c'est la fête, et c'est les filles, et c'est Laurent Voulzy.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Vous l'évoquiez à l'instant, Jean-Michel, quel est votre rapport avec les filles, avec l'amour, avec le désir à ce moment-là?
Je sais pas trop quoi vous dire.
Vous êtes construit dans l'idée d'une virilité qui est conquérante ?
Non, pas du tout. J'ai toujours eu du mal à dire à une fille que j'avais envie d'elle. Mmh. Et donc, j'ai connu pas mal de frustrations, sans doute. Et je me suis construit pas du tout dans la virilité, dans l'inverse. J'avais des copains qui... ça m'a toujours désarçonné, se conduisait comme des soudards, et les filles disaient oui.
Et est-ce que vous aviez le sentiment
ça m'a toujours surpris.
Qu'il fallait faire semblant de jouer ce jeu-là ?
Le mauvais goût des filles m'a toujours surpris. non, moi j'ai jamais pu jouer ce jeu-là. Et du coup, en progressant dans la vie, avant même d'imaginer faire ce que je fais aujourd'hui, je me suis coupé de tous ces copains-là, de cette virilité.
De l'ambiance de bande.
Oui, et quand j'étais au Pays Basque, en fait, je me suis retrouvé un moment assez seul. Parce que là, je sentais plus quoi.
Ouais.
J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ce qui fondait cette part de la culture de l'époque. Qui est peut-être d'une certaine manière aussi le Pays Basque, mais la fête, parce que ça allait avec la bagarre et une forme de violence et une forme de machisme que moi je n'ai jamais aimé, en fait.
À l'époque, vous enchaînez les petits boulots, et puis à 23 ans, vous décidez de reprendre vos études, de vous inscrire au Parti Socialiste et à la piscine, tout ça en même temps, comme
c'est
si
vrai.
Ça allait ensemble.
Oui, c'est vrai.
Vous faites 4 ans de droit, réussi haut la main, 4 ans de militantisme politique qui vous convainc que c'est pas pour vous.
Non.
En faire de la politique, c'est non. La commenter, oui. Alors un matin d'octobre 87, vous arrivez gare d'Austerlitz, vous ne connaissez personne à Paris, mais vous le savez, vous serez journaliste politique. En poche, vous avez votre diplôme de l'IUT de Bordeaux, dans le cœur, dans la tête, le sourire et la liberté de votre mère.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right.
That's Alright Mama, un des tout premiers titres d'Elvis arrivé en France à la fin des années 50. On écoutait Elvis à la maison, Jean-Michel ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non. Mes parents, d'abord écoutaient peu de musique, et puis c'est toujours pareil, c'était le folklore basque qui dominait.
Et vous, Elvis, alors ?
Alors Elvis, moi j'ai découvert, aimé, alors je sais plus trop comment j'ai découvert ça, mais le rock'n'roll, parce que c'est joyeux, ça libère les corps, ça vous fait bouger vraiment, et ça vous fait bouger. Moi, ça m'a fait bouger d'une manière qui n'était pas celle des folklores basques. Donc dans ma tête, c'est important. Et je crois, je ne peux pas le mettre au présent parce que j'ai pas expérimenté ça trop régulièrement, mais je crois avoir été un bon danseur de rock. J'ai beaucoup aimé danser le rock. Danser, c'est formidable, et danser avec une fille, c'est formidable. Et Elvis, alors Elvis, parce qu'il me paraît emblématique de beaucoup de choses. C'est un blanc qui chante comme les noirs à une époque où aux États-Unis la ségrégation raciale est encore forte, malgré tout. Et c'est un blanc qui se déhanche d'une manière que ses adversaires politiques, parce que les conservateurs américains détestent Elvis Presley, qualifieront de pornographique, parce que quand il se déhanche, il y a une sensualité dingue. Et les filles, années 50, aux États-Unis, les filles qui regardent Elvis Presley, elles sont transportées. Les garçons aussi, sans doute.
Alors, on va quitter Catherine, votre mère, et Jean-Pierre, votre père. On va quitter le Pays Basque pour vous suivre à Paris, où vous débarquez juste avant vos 30 ans. Unique en votre genre, vous êtes notre invité. Et vous êtes sur France Inter. Bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter. Unique en son genre.
Jean-Michel Apathy, vous devenez journaliste relativement tard. Vous n'êtes pas du Sérail, pas parisien non plus, vous pouvez difficilement le cacher. Quand vous poussez la porte de vos premières rédactions, est-ce que vous vous sentez à part ?
Pas vraiment. J'ai fait une école de journalisme précisément. J'ai fabriqué un sas pour passer de rien au journalisme. Ça aurait été difficile. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai été accueilli... Je ne connaissais personne. J'ai écrit à Jean-Marie Colombani, qui dirigeait le service politique du Monde à l'époque. C'était. Il m'a reçu. Il m'a accordé une demi-heure de son temps.
Ouais.
Ça n'a servi à rien, mais ça m'a donné confiance. À Libération, le chef du service politique aussi, qui s'appelle Jean-Michel Elvig, a fait pareil. J'ai rencontré des gens, ça a été une chance, peut-être que je l'ai fabriqué aussi, mais des gens amicaux, attentifs à ce que j'étais. Et ça, un peu toute ma carrière, jusqu'à rencontrer un ou deux camps avec qui j'ai eu des problèmes, parce qu'on en a tout le temps. Bon, c'est pas très grave, mais j'ai quand même été plutôt aidé par des gens.
On a beaucoup parlé depuis le début de cette émission de l'effet délétère d'une culture fermé, d'une culture immobile, de l'absence de mouvement. Que diriez-vous du journalisme, des rédactions ? On adore se raconter qu'on est plus ouvert que les autres. Qu'est-ce que vous en diriez, vous ? Est-ce que ce sont des endroits où il y a des codes, des castes ?
Je pense pas qu'il y ait des castes. Je pense que moi, j'ai toujours aimé les vies de rédaction. J'ai rencontré beaucoup de gens sympas dans les rédactions.
Oui, sauf qu'on vous dit avec votre accent, vous allez faire du sport ou de la météo quand même. Donc.
Ah, les auditeurs. J'ai passé quelques années à France Inter. Au début, je suis arrivé en 1999 à France Inter, c'est Jean Lucas qui m'a embauché. Mais au début, j'avais des lettres d'auditeurs. Oui, avec l'accent que vous avez, comment vous osez parler de politique ? C'est les auditeurs. Jean Lucas, pour le coup, ou d'autres, enfin, m'ont fait confiance, malgré mon accent, voire pour mon accent, en se disant, tiens, ça va changer, ça va apporter quelque chose. Moi, j'ai trouvé, après, je ne peux témoigner que de mon expérience, des gens plutôt ouverts avec moi dans le journalisme.
Et pour les femmes, parce qu'on attend encore un MeToo média d'envergure, qui n'est pas encore arrivé, de ce que vous pouviez observer autour de vous, de la façon dont étaient traités les journalistes femmes, que ce soit quand vous avez débuté, ou peut-être un peu plus tard, qu'est-ce que vous observiez ?
Moi, j'ai regardé uniquement le monde de politique fonctionner, donc vis-à-vis des journalistes femmes, je n'en ai pas eu tout le temps conscience. Et des comportements inadmissibles, bien sûr. Mais moi, comme homme, j'avais aucun problème. Et je voyais, j'ai pu comprendre après coup les problèmes que certaines femmes ont rencontrés. Et dans les rédactions, quand j'ai travaillé, oui, j'ai aussi vu des scènes, des histoires qui ne permettent pas de systématiser la critique et de la faire porter sur tous les hommes. Mais je pense que pour beaucoup de femmes, ça a été difficile, parce que une femme qui se projette dans une rédaction, dans une entreprise, quelle que soit son activité, elle se projette comme une professionnelle. Et des hommes qui souvent dans ces années-là, peut-être que c'est encore vrai aujourd'hui de manière dominante, mais les hommes qui avaient le pouvoir ne les regardaient pas seulement comme des professionnels. Et donc ça perturbe beaucoup de choses. Et on en parle peu, on en parle trop peu, et en fait on en parle que quand des choses dures se sont produites et quand des femmes ont été confrontées à de la violence.
Alors peu à peu vous faites votre place, ce sera Le Parisien, L'Express, Le Monde, et puis la radio ici à France Inter, vous le disiez, mais aussi France Info, Europe, RTL, et puis la télé, Canal, France 5, LCI, ça y est, vous y êtes, ça y est, vous l'avez fait,
partout, hein.
Votre place, ouais. Ouais. Alors, par une formidable ellipse que seule la radio permet, on va basculer en 2017, si vous voulez bien, mi-octobre, la tempête MeToo souffle sur toute la planète, fin novembre, le 25, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, Emmanuel Macron prononce ce discours à la télévision.
Je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences faites aux femmes.
Le chef de l'État a l'air ému, concerné, il semble vouloir prendre le problème à bras-le-corps. Vous, vous y croyez ?
Non. Enfin, j'y crois. Quand j'ai entendu ça, peut-être que j'y croyais. Emmanuel Macron, la politique, c'est une activité de représentation. Emmanuel Macron a un vrai talent de représentation. Dans les faits, ensuite, là, vous dites novembre 2017 ?
Ouais.
Le voilà confronté début février 2018 à quelque chose d'inédit. L'un de ses principaux ministres est accusé de viol. Il fait dire par son porte-parole que ça le laisse de marbre. C'est scandaleux. Beaucoup plus récemment, nous avons une indulgence vis-à-vis de tout ceci qui montre bien que la culture est en retard. Gisèle Halimi meurt. C'est une émotion dans la société. Déjà, c'est déjà bien. Pourquoi ? Parce que Gisèle Halimi, par son action, à la fois pour criminaliser le viol et pour permettre aux femmes l'interruption volontaire de grossesse, Gisèle Halimi a beaucoup contribué à changer la société. Et voilà qu'Emmanuel Macron, saisi par une audace dont il faut le féliciter, envisage de la faire entrer au Panthéon. Mais des forces obscures dans la société se dressent. Gisèle Halimi, ça a aussi été l'avocate du FLN. Ah, alors là, faire entrer une avocate du FLN, le Front de Libération Nationale, c'est-à-dire des Algériens qu'on a envahis en 1830, qu'on a poussés à la famine, qu'on a fait souffrir comme jamais, et qui, au fond, aspiraient à l'indépendance. Mais, enfin, comment est-ce que, en 2022, on peut accepter cela ? Donc, Gisèle Halimi n'entrera pas au Panthéon. Et Gisèle Halimi, alors, on fait une concurrence des mémoires, on promeut Joséphine Baker, qui est un personnage formidable, et alors, du coup, on va faire entrer Joséphine Baker, pas Gisèle Halimi au Panthéon, pourquoi pas les deux ? Pourquoi créer cette concurrence-là ? Mais enfin, c'est comme ça qu'Emmanuel Macron raisonne, l'une oui. Et nous allons faire, au mois de janvier, promet-il à la famille, mois de janvier 2022, une cérémonie d'hommage aux Invalides. Eh bien, nous sommes début février, et la cérémonie d'hommage, Tintin. Parce qu'on n'honore pas quelqu'un qui a défendu le FLN. Vous comprenez ? Il y a une hypocrisie chez Emmanuel Macron sur ces sujets-là. Une insensibilité d'Emmanuel Macron.
Vous pensez une insensibilité ? Il s'en fiche ?
De marbre ? Enfin, c'est un scandale. Mon ministre est accusé de viol et ça me laisse de marbre. L'association de ces mots, viol et marbre, est insupportable. Emmanuel Macron, je l'ai dit, écrit, pensé, il doit s'excuser d'avoir associé ces deux mots. Il est inacceptable qu'au sommet de l'État, alors que des femmes meurent de la violence masculine, qu'au sommet de l'État, celui qui nous représente tous dise qu'une accusation de viol le laisse de marbre.
Oui, sauf
comment
que
laisse-t-on passer ça ?
Mais parce qu'on va vous parler de prescription des faits, parce qu'on va vous parler de présomption d'innocence, parce que et de la même façon, si on prend le cas Hulot, on va On va y revenir, mais si on prend le cas, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il nomme donc à l'Intérieur, pas n'importe quel ministère, hein, un homme qui est accusé de viol et d'abus de faiblesse. Est-ce que vous comprenez le mouvement de colère des féministes et le rappel à la démission de Darmanin ?
Alors, je le comprends. Nommer Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur alors qu'il a deux plaintes, je pense.
Oui, deux. Une pour viol et une pour abus de faiblesse.
Absolument. Ça peut paraître de la provocation. Donc, les féministes que vous citez le ressentent comme ça. Elles le disent. Elles ont été un peu isolées. Bon, ça montre l'insensibilité d'Emmanuel Macron, qui dira même qu'il s'est expliqué d'homme à homme avec Gérald Darmanin.
Cette expression-là, comment
est-ce cette expression est un peu comme le marbre. C'est lunaire. C'est lunaire. Mais. Il faut bien reconnaître que dans ce dossier, il y a une singularité qui n'avait pas dans le dossier Hulot, puisque vous avez mentionné tout ça rapidement. Les faits ne sont pas prescrits et la justice enquête.
Ouais.
C'est déjà un peu un autre schéma. C'est-à-dire que une femme peut exposer, dans un cadre que l'on espère serein, devant un juge d'instruction, les griefs qu'elle a à faire contre Gérald Darmanin, et Gérald Darmanin peut s'en expliquer.
Mais est-ce qu'il peut être...
Au moins, la machine fonctionne.
Est-ce qu'il
dans
peut
d'autres
être...
histoires, elle ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il peut être serein, ce cadre, dans la mesure où
il est ministre,
il est ministre de l'Intérieur.
Oui, c'est-à-dire
qu'il n'est pas ministre
non, mais c'est un problème, oui.
Des bureaux de tabac. Il est,
C'est un problème. Disons que dans ces débats-là, il faut articuler beaucoup de choses qui sont totalement contradictoires. Il aurait mieux valu que Gérald Darmanin ne soit pas nommé ministre de l'Intérieur, voire pas nommé ministre du tout. Après, il faut articuler cela, parce que ça existe dans d'autres débats, avec la présomption d'innocence.
Vous avez par exemple le maire de Copenhague qui tombe sous le coup d'une accusation de viol, pareil, et qui démissionne, tout en disant « Je suis innocent », tout en invoquant la présomption d'innocence, mais dis-moi, cette affaire, elle va polluer la politique de la ville, elle va m'empêcher de travailler correctement, donc, pour mon équipe, pour les citoyens, je démissionne.
Ce sont des exemples dont il faudrait s'inspirer, bien sûr.
C'est-à-dire que la France n'est pas prête à ça ?
Alors, visiblement, elle ne le fait pas. Mais, après tout, un chef d'entreprise qui serait sous la menace d'une plainte de l'une de ses employés, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit continuer à diriger son entreprise ? Ça n'affecte pas aussi son autorité ? Ça ne nuit pas à sa relation avec les autres salariés ? Ces problématiques-là sont assez nouvelles. Il faut articuler des choses qui sont objectivement contradictoires. Une femme qui prend la parole publiquement pour dénoncer une violence dont elle dit avoir été la victime, on lui dit « on vous croit » pour encourager la prise de parole. Mais quand on lui dit « on vous croit » et qu'elle accuse quelqu'un, le quelqu'un qui est accusé, sa présomption d'innocence, elle vole en éclats. Comment on articule tout ça ? Comment on vit avec tout ça ? Nous devons réfléchir à tout ça. Nous ne le faisons pas. C'est ça le problème. Nous ne le faisons pas et nous nous trouvons avec ces cas de figure singuliers où le chef de l'État peut avoir des expressions inacceptables, le marbre d'homme à homme, et un ministre de l'Intérieur qui doit répondre de deux plaintes de la part de femmes qui disent avoir subi des violences de sa part. Voilà, on est au début d'une réflexion et on n'a pas très envie de la mener pour l'instant.
On arrive enfin à l'affaire Hulot. On découvre en 2018, je le rappelle brièvement, qu'une plainte pour viol a été déposée contre lui 10 ans plus tôt. Le gouvernement fait bloc autour de lui. Emmanuel Macron, vous le disiez, prend sa défense. Sauf que 3 ans plus tard, à l'automne, là, 2021, il y a cet envoyé spécial où 4 femmes accusent Nicolas Hulot de viol ou d'agression sexuelle. La veille de la diffusion de l'enquête, il est à la télévision sur BFM face à Bruce Toussaint. Nous sommes le 24 novembre 2021.
Depuis 4 ans, je subis, comme d'autres, le poison de ce que j'appelle la rumeur, puis les insinuations, parfois au grand jour les accusations, parce que, évidemment, le doute était là et donc... Ce poison du soupçon faisait son œuvre, ça ne m'échappait pas. Mais avec une certaine naïveté, du haut de ma conscience, je pensais que rien de grave ne pouvait m'arriver. Et l'expérience que je vais livrer aujourd'hui montre que dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. Où sont les preuves ? Où sont les preuves ? Et les preuves, on ne peut plus maintenant les établir.
Parce qu'il y a prescription,
vous voulez dire ? Parce qu'il y a prescription. Comment puis-je ? En tout cas, pas dans l'immédiateté d'un plateau de télévision. Il faut du temps pour rassembler les preuves. On ne peut pas inverser la charge de la preuve. Et on ne peut
Nicolas
pas,
Hulot.
Encore une fois, transformer le principe de présomption d'innocence, excusez-moi, c'est très important, en présomption de culpabilité. Dans quel pays vit-on ? On a un état de droit... Tout ça ne peut pas se faire hors du code de procédure pénale. Bien. La justice ne se fait pas. Les journalistes ne sont pas des procureurs, ils ne sont pas des juges.
Qu'est-ce que vous vous dites, Jean-Michel Apathy, quand vous réentendez cette interview de Nicolas Hulot sur BFM ?
En fait, c'est une interview très riche. Il faut réfléchir à beaucoup de données à partir de cette interview. D'abord, un homme qui est accusé n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. Donc, il peut, il doit, non pas se défendre, mais il doit expliquer et répondre. Je pense que le grand changement mental qu'il faudrait faire, c'est que quand une femme accuse, un homme ne se réfugie pas, comme l'a fait Nicolas Hulot, dans le silence et la dénégation. Il doit expliquer. Il dit, vous vous rendez compte, les faits ont 32 ans, il n'y a pas de preuve. Eh bien, dans ces histoires-là, il n'y a jamais de preuve. Ce qui peut mettre la justice en échec, c'est ce qu'une femme dénonce se produit au cours d'une rencontre intime. Des preuves, quelles preuves ? Bien sûr, si une robe est tachée de sperme, on va se dépêcher de jeter la robe. On ne garde pas la preuve. Je connais une histoire, très précisément, où la personne qui dit avoir subi une violence sexuelle a jeté les vêtements qui lui rappelle précisément cette rencontre. Donc elle a détruit les preuves. Parce que quand elle détruit les preuves, elle n'imagine pas du tout qu'elle va en parler. Il va lui falloir de longues années avant de comprendre que parler de cette agression sexuelle va la libérer d'un mal qui la ronge depuis cette rencontre. Il n'y a pas de témoin. Évidemment, il n'y a pas de témoin. La violence faite aux femmes, les scènes de violence mettent la marche traditionnelle de la justice en échec. Nous devons donc réfléchir autrement. Et la prescription, on a compris, le mouvement MeToo nous l'a enseigné, pour ceux qui n'y avaient jamais réfléchi, que le traumatisme est tellement singulier chez une femme, la honte, la difficulté d'en parler est telle, qu'il peut s'écouler beaucoup de temps entre le moment où la violence est subie et où on commence à en parler. L'affaire de viol qui concerne Nicolas Hulot, la personne qui porte plainte pour viol contre lui le fait 11 ans après sa rencontre. Les faits sont prescrits. Mais en fait, la prescription des faits ne tient pas dans ces histoires-là parce que il faut un long cheminement à la personne et faut-il qu'elle ait subi tout de même un traumatisme pour 11 ans après avoir croisé la route de Nicolas Hulot, elle éprouve le besoin d'aller porter plainte. Et c'est à ces questions-là qu'un homme accusé doit accepter d'être confronté. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais ça veut dire qu'il doit des réponses. Contraindre quelqu'un à la parole, c'est vérifier sa sincérité. On doit naviguer dans une zone que nous ne connaissons pas parce que nous n'y avons pas réfléchi, où il faut abandonner les notions de présomption d'innocence, de prescription des faits. Il faut que les personnes mises en cause parlent sans que pour autant elles soient désignées dès l'instant comme coupable.
Mais vous allez faire hurler si celles et ceux qui nous écoutent, qui vous entendent dire il faut abandonner la notion de présomption d'innocence.
Mais on l'abandonne de fait. Quand une femme dit « un tel m'a violée » et qu'on lui dit « on vous croit » pour encourager les prises de parole, qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence ? Qui est quelque chose de très important, vraiment, dans la vie sociale, ne résiste pas à ce problème particulier que posent les femmes aujourd'hui. Elles disent « La violence que nous subissons est illégitime. » Et quand une femme raconte une scène de violence, elle désigne un agresseur. Et là, déjà, la présomption d'innocence est écornée. Et il faut que les femmes parlent. Pourquoi ? Pour se réparer elles-mêmes, sans doute. Mais pour que la société prenne conscience de ce que subissent les femmes. Et pour que nos enfants, les garçons, les filles, ne reproduisent pas ces comportements, ne subissent pas ces comportements. L'enjeu, c'est celui-là. L'enjeu, c'est que les choses changent, que la culture change, pour ceux qui, arrivant à l'âge où on fait des expériences sexuelles, ne connaissent pas cette violence, parce que la violence dans la sexualité n'a pas sa place. La seule chose qui fait que deux êtres s'aiment, c'est leur consentement. Et nous devons là-dessus progresser, travailler. Et donc ça passe par une prise de parole des femmes, mais quand les femmes prennent la parole, je le répète, évidemment, la présomption d'innocence des hommes est mise à mal.
On va passer encore quelques minutes ensemble, Jean-Michel Apathy, je m'en réjouis. À la technique ce soir, Gilles Gaillard, Marianne Crimbaud à la réalisation, Ophélie Vivier attachée de production, et ça c'est Courtney Barnett, Write a List of Things to Look Forward to.
Looking forward to the next letter that I'm gonna get.
Et si Courtney Barnett s'invite dans votre salon, dans votre voiture, c'est à Djoubaka qu'il faut dire merci. Vous retrouverez bien entendu toutes ces références musicales sur franceinter.fr à la page d'Unique en son genre.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Imaginons un monde où on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les genres seraient mouvants, on en ferait ce qu'on veut. Ce monde-là, c'est le nôtre, celui de nos invités qui, chaque semaine, viennent déposer dans notre labo du genre l'objet qui a fait d'eux les hommes ou les femmes qu'ils sont aujourd'hui. Vous, Jean-Michel Apathy, ce serait quoi ?
L'objet, la masculinité, c'est le rasoir.
Et c'est une masculinité qui vous plaît, qui vous contraint, c'est...
J'ai joué avec, je crois que j'aime bien sentir la dureté du poil. Je l'ai laissé pousser à des périodes de ma vie, mais c'était pour me cacher. Je l'ai rasé, et je préfère ça. Oui. Et puis en même temps, oui, c'est une contrainte, parce que c'est pas très joli. Quand je vois des hommes avec des barbes, je me dis, putain, c'est moche quand même souvent.
Oh, c'est pas vrai.
Ah si, si, moi je
trouve... Ah non, ça dépend de la barbe. Ah,
je... Ouais, ça dépend de la barbe, mais je me dis, comment une femme peut aimer un homme avec une barbe ?
Bah, si je peux vous en parler.
Ouais, ouais, mais... voilà. Et c'est pour ça qu'on a des différences, oui, mais moi, je, non, je... Donc du coup, voilà, c'est ambivalent. Mais j'aime bien quand c'est un peu dur, j'aime bien.
Et est-ce que vous avez un rapport ambivalent avec le fait d'être un homme? C'est-à-dire que ce qu'on vit depuis 4 ans, c'est quand même une réinterrogation des deux genres, des injonctions faites au masculin comme au féminin. Est-ce que vous, ça vous a permis de vous interroger sur vous, sur comment vous aviez été construit comme homme, sur ce que ça voulait dire
être un homme? J'ai
toujours aimé être un
homme. Ouais. J'ai toujours aimé ce qu'il y a d'acceptable dans la virilité, je crois.
C'est quoi ce qu'il y a d'acceptable dans la virilité?
Je sais pas.
C'est le rugby?
Ouais, c'est ça. On est un peu costaud. On est un peu, voilà, c'est ça, ouais. Il y a un peu de dépenses physiques, quoi. Voilà.
Ouais.
Laisser monter sa part de féminité, puisque nous sommes dans ces clichés-là, c'est sans doute plus difficile à faire, mais il faut le faire.
Est-ce que vous
les émotions, chercher la beauté, l'esthétique.
On dit voilà. Beaucoup depuis le début de MeToo que les hommes ont peur. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on dit à chaque vague féministe.
Non, ils ont que peur de perdre leur pouvoir, c'est tout. Ils ont que des peurs malsaines qu'ils doivent pas avoir. J'entends, je la citerai pas, mais une journaliste qui dit oui, il faut préserver la séduction à la française, mais autant de conneries m'assoient par terre. Voilà.
Je pense qu'on peut se quitter sur cette phrase. Passons, Jean, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment, Jean-Michel Apathy, d'être venu
Merci
me voir.
À vous. Être invité dans une émission qui s'appelle Unique en son genre, c'est quand même un privilège, vous savez. J'étais très heureux de venir vous voir, Julien.
Moi, j'étais très heureuse de vous recevoir. Je rappelle le titre de deux de vos ouvrages, Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat, ça c'est chez Flammarion, c'est le dernier. La liberté de ma mère, que je recommande, mais 1000 voire 2000 voire encore plus de fois, réédité en poche, collection, j'ai lu. Vous lancez par ailleurs dans le podcast, podcast politique diffusé depuis le début du mois qui s'appelle Allons enfants de l'apathy. Donc oui. Vous allez couvrir toute la campagne, c'est
toute
ça?
Toute la campagne, et pour dire aux gens d'aller voter, parce que c'est quand même important d'aller voter.
Merci aux gens qui nous écoutent de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bon week-end.